nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, La troisième époque de violence et crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. De très bonnes choses, Gilbert lui dit, à son petit ange. Ils ont passé une très bonne journée ensemble. Le soir, ils sont rentrés un peu tristement à Paris, revu la ville, ce chantier, sa poussière, sa misère. Ils sont rentrés avant 21h parce que les rues ne sont pas sûres, malgré la police et l'armée. Ils ont raccompagné Nathalie, Julien lui a dit qu'elle pouvait garder le vélo. Puis, Gilbert a raccompagné Julien. Et après, il est rentré chez lui, heureux de sa journée.
Ha ha ha!
Une ambulance est arrêtée devant l'entrée de la clinique laboratoire de recherche Genetou-Riquin qui se trouve en dehors de Paris. Depuis le temps, la clinique n'a pas changé et ne s'est pas dégradée. Elle est toujours aussi prestigieuse et spécialisée pour les greffes et les maladies graves incurables. Il est 23 heures. L'ambulance est arrêtée devant l'entrée. En voyant cette ambulance, deux personnes de l'accueil, deux hommes en blouse blanche, vont voir. Sortent de la voiture deux infirmiers en blouse blanche, grands, forts, chantants. Un des hommes de la clinique demande « Vous désirez ?» Un ambulancier lui dit « C'est une urgence !»«
Nous ne faisons pas d'urgence ici. » »«
Il n'y a plus de place ailleurs et j'ai un papier. » Des amis qui me disent de l'amener ici. Vous devez le prendre, c'est un ordre.
L'homme de l'accueil lui dit,
suivez-moi, allons à l'accueil avec votre papier.
Ils entrent dans la clinique. Entrez. Hall d'entrée. Et vont vers la banque d'accueil où se trouve une hôtesse en tailleur rouge.
Il demande « C'est pourquoi ?»
L'ambulancier lui dit « Pour une entrée en urgence. »
Il lui montre un papier. Elle le prend et le lit.
« Ministre des armées, ordre de prendre ce blessé, grand blessé, sans connaissance. » Elle dit, « Nous ne faisons pas les urgences ici, mais puisque c'est l'armée qui le demande, vous avez sa carte pour que je l'inscrive ?»
L'ambulancier lui donne une carte qui sert d'identité, de sécurité sociale, carte pour les prélèvements, etc., etc. Elle met la carte sur l'écran et inscrit le nom, la sécurité sociale, l'adresse, profession et le compte en banque pour le prélèvement. Elle rend la carte.
Il est inscrit. Il a la chambre numéro 421.
L'homme de l'accueil lui dit. Nous allons chercher votre client.
Ils sortent de l'hôpital. De la clinique, plutôt.
Thier ouvre la portière de l'ambulance, un lanceur en brancard où se trouve dessus, recouvert d'un drap du pied à la tête, un homme ou un être humain. Il prend le brancard et vont jusqu'au hall.
Ils sont entrés.
L'accueil dit merci à l'ambulancier et l'ambulancier s'en retourne.
Et pousse le brancard jusqu'à l'ascenseur. Il l'appelle, met le brancard dedans et monte jusqu'au quatrième. Puis sort de l'ascenseur et pousse le brancard jusqu'à la chambre 420. Une vaste pièce toute blanche. deux infirmières sont là pour aider à déposer le malade sur le lit. Une infirmière soulève
Eve.
Le drap et ils voient sur le brancard un homme complètement défiguré, sans presque pas de peau sur le visage, rouge, les yeux et les dents qui lui sortent de la chair, plus de cheveux. Une infirmière dit « Oh, mon Dieu, quelle horreur !» Ils enlèvent le drap en entier et voient une chose déchirée, brûlée, une peau collée, toute brûlée, collée, toute brûlée, le pantalon aussi. Une des infirmières dit, on nous a amené un cadavre. L'autre lui dit, tant que le médecin ne l'a pas vu, il n'est pas mort. Quelle idée de lui avoir amené ça? La morgue aurait été mieux. L'infirmière lui dit, c'est peut-être une personne très importante pour qu'on nous l'ait amené. On dépose délicatement le corps sur le lit. Une infirmière dit, il n'a pas réagi, qu'est-ce qu'on fait? Prenons le médecin de garde. Et ils sortent de la chambre en prenant le brancard. Une infirmière va au deuxième étage pour voir le docteur. C'est le docteur Moreau. Elle frappe. Entrez. Elle entre. Pièce claire, mode de bureau en métal gris. Le médecin est un gros homme de taille moyenne en blouse blanche. Il lui demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle s'approche et lui dit « Il y a eu une urgence. »
Cette nuit ?
Oui, une urgence.
Nous ne faisons pas d'urgence.
Mais c'est spécial. L'armée nous l'a amené.
Qu'est-ce que c'est ?
Un grand poulet. Mais d'après moi, il est déjà mort. Le médecin lui dit.
Alors, il n'y a plus d'urgence ?
Oui, peut-être, mais il faudrait que vous alliez voir. On ne sait jamais.
Ah, c'est toi, Rosalie ?
Oui.
Oui, il y a urgence. Montre-moi tes seins, que je les palpe un peu, avant que je meure inanimé de manque. Elle défait sa blouse, déboutonne son corsage, et ses seins. Viens, j'ai faim.
Elle se penche vers lui, et lui souce goulûment.
Une heure plus tard, dans la chambre, le paquet urgent de son lit. A explosé. Il avait une bombe dans le ventre.
bombe dans le ventre. L'explosion est très forte et met le feu et fait sauter la clinique. Le feu sort de la chambre, longe les couloirs, font exploser, fait exploser tout sur son passage, les chambres, les lampes, tout ce qui est électrique, les malades, le matériel, tout sur son passage. Se nourrit de produits inflammants, descend, monte les escaliers, les autres étages, prend les salles d'opération, détruit tout, tout, tout y passe. Absolument tout y passe. Les gens n'ont pas le temps de se sauver. Il ne reste rien. La clinique explose. Le laboratoire à côté aussi. Le feu est tellement important qu'il est vu par des kilomètres. Les gens des environs restent chez eux. Ils ont peur. Rien faire, les pompiers non plus, il y a trop de flammes qui sont trop hautes. Ils ont évacué la route, les gens des immeubles, tout le monde dehors en tenue de nuit et regarde. Après 6 heures de travail, ils ont, grâce aux hélicoptères, le feu a été éteint. Il est 7 heures du matin. Il ne reste plus qu'un tas de cendres bouillantes et grises de la clinique et de son laboratoire. Thank you.
la police fait son enquête. Mais quoi trouver dans un tas de cendres bouillantes? Le directeur de la clinique et le personnel ont été interrogés pour rien. Le groupe Jeune Tout Pontois, un conseil d'administrateurs, vient sur les lieux et un homme de l'assurance. En plus, le Premier ministre. Le président du groupe dit à la presse devant les cendres de la clinique.
Après ce désastre, je tiens tout d'abord à présenter mes condoléances à toutes les victimes, malades, employés, les familles qui ont été victimes. Les familles recevront de ces victimes une somme de notre assurance, dont j'ai le représentant à mes côtés, Monsieur Dupont Robert.
Un petit homme à costume noir est à côté de lui, dit:
les assurances Dupont Robert sont à votre service. Venez nous voir. Merci.
Le président continue.
Je vous décide, c'est de reconstruire cette illustre clinique et son laboratoire. En attendant, un immeuble sera prêté pour la continuité de nos soins. Cet immeuble nous est gracieusement offert par le groupe Franblanc. Avez-vous quelques questions à nous poser?
Un journaliste lève le bras. C'est un homme grand, gros et dit:
est-ce que l'explosion a été provoquée par un acte criminel?
Non, je ne le pense pas. Tu aurais voulu faire une telle chose à des malades?
Je crois que c'est un accident, un court-circuit.
Le groupe va laisser la police enquêter, les pompiers aussi. Mais pour nous, c'est qu'un court-circuit.
Le président du groupe voit lever le bras au plus célèbre journaliste, Pierre-Marc Soussillon, celui qui est dans tous les endroits où il se passe quelque chose et qui pose la question qu'il faut.
Tout le monde, respectueusement, attend pour qu'il pose la question clé.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bonjour messieurs. Je suis devant le centre de la plus célèbre clinique de France qui vient de brûler. Je veux dire la clinique Jeune Tout Pontois. Et je veux poser la question au président du groupe Jeune Tout Pontois que j'ai déjà interrogé il y a de cela quelques années. C'est un de mes interviews que j'ai parmi mes 2000 interviews qui malheureusement ne peuvent être écoutées parce que les bandes sont mortes. J'habite un endroit très humide.
Monsieur le Président, je suis Pierre Max de Radio Métropole. Puis-je vous poser une question?
Oui, cher monsieur Pierre-Max. Oui, bien sûr.
Tout le monde rit. Pierre-Max demande:
croyez-vous que cet incendie soit un incendie criminel
pour avoir l'argent d'assurance?
Le président rit et dit:
mais non, c'est ridicule. Tout le monde connaît Pierre-Max.
L'homme de l'assurance regarde le président d'un drôle d'air.
Pierre-Max continue: parce que moi, j'étais dans une de vos sectes. Parce que vous avez des sectes.
et on a fait la même chose, comme ça, pour récupérer de l'argent et cacher leurs expériences. Le président Rigaud a dit, tout le monde connaît Pierre Max. Mais nous ne sommes pas une secte. Il s'est trompé. Et puis, pour prouver que je suis de bonne foi, je double ce que va donner l'assurance. Je double aux familles l'argent que va donner l'assurance. Voilà. Comme ça, c'est bien. Tout le monde applaudit. Et Pierre Max dit, et les expériences du laboratoire, qu'est-ce que c'était? Le président dit, la conférence est finie. Pierre Max dit, c'est peut-être les Américains qui ont mis le feu. Le premier ministre fronce ses sourcils et dit au président du groupe, il va nous créer des ennuis diplomatiques. Allons-nous-en. Le président lui dit, remarquez, il n'a peut-être pas tort. Le premier ministre lui demande, vous êtes sûr que vous n'avez pas mis le feu? On dit que vous aviez des difficultés de fin de mois. Le président lui dit, non, plus depuis la location du terrain à Franc-Blanc et de nos grands projets. Et il sort. Nous pouvons partir. La conférence est finie. Les journalistes et gens du groupe s'en vont et applaudissent. Il laisse les pompiers et la police sur les lieux. La police surveille le refroidissement des cendres et empêche les gens de s'approcher. Ensuite, on enlèvera les cendres, puis on commencera la reconstruction de la clinique et du laboratoire, mais en plus grand.
Le président de la République a dit à Franc-Blanc de reconstruire gratuitement le tout. Il a convoqué Maurice à son bureau.
Pourquoi? Plus tard, ça va vous rapporter gros. Le groupe Jeune Toupantois sera à votre merci.
Maurice écrit au groupe Jeune Toupantois comme quoi il veut bien reconstruire gratuitement pour le bien de la science la clinique laboratoire avec les plans qu'il leur enverra.
Le groupe Jeune Tout Pontois est surpris, mais se disent que c'est excellent pour aider la science et acceptent. Ils font faire un plan de nouveaux locaux et l'envoient au groupe Franc-Blanc qui le donne à leurs architectes pour la construction.
Les jours passent. La mère de Gilbert, Charlotte, voit son fils changer. Il sort plus souvent, soigne sa tenue, passe beaucoup plus de temps à la salle de bain, est rêveur. Une mère sent lorsqu'un de ses fils est amoureux. Son instinct lui dit qu'il y a de la concurrence. Son amour exclusif la rend jalouse, et sa jalousie la rend curieuse, et sa curiosité cherche à protéger son fils. Car s'il est amoureux, il y a danger. Elle doit le protéger contre lui-même, les autres. D'un amour exclusif devient un amour protecteur et de sacrifice. Aider son fils, protéger son fils du danger. Elle est prête à tout pour cela. Un jour, que son fils s'apprête à sortir, va vers lui. Il dit,
« Quelle est la jeune fille que tu fréquentes ?»
Gilbert est surpris.
« Mes mères, viens une minute. »
Et il la suit. Elle le mène au salon. Elle a une robe d'intérieur floue, beige, qui la rend digne, comme une reine.
Assieds-toi.
Il s'assoit. Elle reste debout et lui dit.
Que tu fréquentes, c'est normal. Mais fais attention. On veut peut-être en ta fortune.
Mais mère,
tu as un rang très important en France. Tu n'es pas comme tout le monde. Les gens tournent autour de toi que tu ne vois pas. Ils ne cherchent qu'à s'emparer de toi et de tes biens. Ils connaissent les jeunes gens, leurs faiblesses. Et joue avec.
Alors, quelle est cette jeune personne que tu fréquentes ?
Gilbert lui dit.
Être tranquille. Elle est d'une famille très bien et fortunée. Elle ne cherche pas mon argent. D'ailleurs, elle poursuit ses études et plus tard aura un salaire plus important que le mien. Elle vit seule avec sa mère.
Elle n'a pas de père ?
Non, il est mort.
C'est bien regrettable. Et où habite cette personne ?
Dans le quartier du Marais. La mère fait la grimace et lui dit.
C'est un quartier mal fréquenté. Et toi-même ne devrais pas y aller. On pourrait penser à des choses. Il y a certains messieurs qui seraient très heureux de faire ta connaissance.
Gilbert lui dit. Vous pouvez être tranquille. Elle n'habite pas dans une de ces rues. Sa rue est calme et elle habite dans un hôtel particulier que père va d'ailleurs conserver. Elle lui dit,
« Ah, parce que tu as mis au courant ton père. »
Bon, je lui ai simplement de poser des questions sur le quartier.
« Elles vivent comment, ces charmantes personnes ?»«
De rien, de rente, je ne sais pas. » La mère qui vient de voir le film « Les dames du bois de Boulogne » de Bresson s'en souvient et dit,
« Je vois. Il vaut mieux pas que tu revoies ces personnes. Elles m'ont l'air d'être des intrigantes. »
Gilbert se lève furieux et lui dit, « Comment osez-vous dire ça ? Vous ne les connaissez même pas. »
Elle lui dit, « Je sais voir entre les mots. »
Gilbert se dit,
les mères ne comprendront jamais rien et verront toujours de travers. Il a envie de le lui dire, mais non, à quoi bon? Je suis major, mère, et je la reverrai parce que je l'aime. C'est une personne très sérieuse et bien.
Sa mère lui dit, puisque tu le penses, va donc la voir, cette jeune fille que tu fréquentes et que tu préfères à ta mère.
Gilbert se dit, voilà la phrase qui la dévoile. Elle est comme toutes les mères, jalouse. Il quitte la pièce. Elle le regarde le quitter comme ça. Elle en a le corps serré. Comme toutes les mères qui cachent leur amour incestueux par de l'amour protection. Elle soupire et dit,
il ne m'aime plus. Et en faisant le crime de me préférer à une inconnue, il va à sa perte. Mais mon amour de mère doit aller au-delà de la peine qu'il me fait. Et je vais tout faire pour l'aider.
Elle se prend pour une grande tragédienne, ou plutôt un personnage de tragédie, une mère qui se sacrifie malgré le coup de poignard que lui a donné son fils. Elle se sacrifie pour son bonheur. Sa tenue, le silence de ses grandes pièces lui donne encore plus l'illusion d'être un personnage de tragédie. Et parce qu'elle sublime son malheur, et elle-même en rôle tragique, et elle se voit jouer ce rôle, malgré elle, cela lui fait du bien. Elle se trouve sublime. Et aime son rôle qui lui fait mal. Il est devenu le mal de son double. Mais elle va jouer son rôle à fond jusqu'à ce que le rideau tombe après sa mort tragique, tuée par un fils coupable de ne pas l'avoir assez aimé, préféré à une autre qui le perdra. Quel rôle magnifique! Elle va se draper dans ce rôle. Le premier acte est fini. Commence le deuxième.
Mère courage sublime. Ne pouvant pas attendre le retour de son mari, elle décide d'aller le voir à son bureau. Sort du salon pour aller à sa chambre. Une fois dans sa chambre, elle va ouvrir son armoire. Elle se choisit un tailleur beige foncé, un chapeau de même teinte avec une bordure marron clair, des chaussures marron et un sac marron.
de sortir de voiture, elle lui dit
« Attendez-moi, j'en ai pas pour longtemps. »
Elle sort de voiture. Puis, elle entre dans le siège. Une fois au siège, elle va vers l'ascenseur. Entre dans l'ascenseur. Jusqu'au dernier étage. Sort de l'ascenseur. Va à l'accueil. Vers l'hôtesse. Jeune fille en bien habillée en tailleur rouge. Elle voit qu'elle est nue sur son tailleur. Cette grande bringue rousse. La jeune femme se lève. Elle approche de Charlotte.
Bonjour mademoiselle Leblanc. Vous désirez voir votre mari ?
Oui, mademoiselle.
La jeune fille se rassoit, fait le numéro.
Monsieur, vous avez votre femme qui désire vous parler.
Cette façon de faire agace Charlotte. Elle a l'impression de demander audience au roi. Et tout le monde le sait. Ce qui fait que si son mari ne peut pas la recevoir, tout le monde le saura. Et ce sera la honte.
Madame, votre mari veut bien vous recevoir.
Merci, mademoiselle.
Elle a envie de lui dire, mettez des sous-vêtements, c'est assez décent. Et elle va à la porte, vers la porte de son, du bureau de son mari.
Frappe, entrez. Elle entre et ferme la porte. Il est à son bureau et lui dit, tu as quelque chose à me dire?
Oui.
Elle s'approche et s'assoit en face du bureau.
De son sac, un paquet de cigarettes. Fume une cigarette pour se détendre. Elle lui dit,
ça fait longtemps que je n'étais pas venu ici.
Qu'est-ce que tu as d'urgent à me dire? Il y a le feu?
Elle le regarde avec dédain. Monsieur n'aime pas être dérangé.
Non, mais si tu... C'est très grave. Tu te souviens que tu as un fils?
Il hausse ses épaules et lui dit,
bien sûr. Toi, tu ne te souviens pas que je voulais qu'il vienne travailler ici et qu'il a refusé? D'ailleurs, je pense qu'il ne tardera pas à changer d'avis. Il s'intéresse malgré lui à mes affaires et je crois que ça le passionne un peu. Il est venu de lui-même dans ce bureau. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce fils?
Elle lui dit, oh, rien, simplement, il semble fréquenter une jeune personne.
Il sourit et lui dit,
c'est de son âge. Et comme toutes les mères, tu es jalouse.
Elle hausse les épaules et lui dit,
« Mais non, pas du tout. Je serais tout à fait heureuse s'il aimait quelqu'un de très bien. »«
Parce que la personne n'est pas bien. » Il hausse les épaules et lui dit, « Qu'est-ce que ça peut faire? C'est justement pour s'amuser. »« C'est de son âge. »
dit, agacé.
« Écoute-moi un peu au lieu de t'amuser par procuration. Ton fils est sérieusement épris. » Il la voit très souvent et va même voir la mère de la fille.
Et cela, et c'est le problème.
Elle lui dit, ton fils est un Franc-Blanc de la famille la plus riche de France et c'est le seul héritier, tout le monde le sait. Il risque d'être mené par le bout du nez par n'importe qui ne pense qu'à la fortune de notre famille.
Quelle est cette fille?
Il paraît que tu la connais. Gilbert m'a dit que tu la connaissais et que tu savais où elle habitait.
Je ne sais pas, il ne m'a rien dit.
Elle habite, elle et sa mère, dans le quartier du Marais.
Ah, oh, je vois, oui. Il m'a demandé si la maison de la mère de la jeune fille allait être démolie. Mais c'est tout. Je lui ai dit que non, mais que le propriétaire devait payer les frais de la rénovation, si elle voulait garder sa maison. Il m'a dit qu'elles avaient les moyens, mais je ne sais rien de plus.
La mère lui dit,
« Tu peux me donner son adresse ?»«
Oui, bien sûr, mais pourquoi faire ?»«
Je veux savoir qui sont ces personnes. »«
Tu es folle, ton fils est major. »
Il tape sur son ordinateur. Et lui tend un papier avec l'adresse et le nom.
Tiens.
Merci.
Elle met le papier dans son sac et lui dit.
Il est en âge d'apprendre seul les mensonges de la vie. Ne te fais pas de soucis. Après quelques coups du sort, il fera attention.
Elle lui dit. Tu sais bien que l'amour chez les jeunes, ça les rend bêtes et aveugles.
Il lui demande. Tu n'as rien d'autre à me demander?
Non.
Elle se lève.
Merci de m'avoir reçu.
Et elle sort du bureau. On va vers l'ascenseur. Au rez-de-chaussée, elle sort de l'ascenseur. Elle sort du siège. Dans la voiture qui la ramène, elle se dit,
je ne peux compter sur personne.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.